signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la fin du mois de juin dernier, le magazine américain Harper's publiait une lettre ouverte intitulée « Notre résistance à Donald Trump ne doit pas conduire au dogmatisme ou à la coercition », signée par 150 écrivains, artistes et journalistes. Parmi ceux-ci figuraient plusieurs figures historiques de la gauche, telles Noam Chomsky, Gloria Steinem ou encore Michael Walzer. La lettre dénonçait un climat intellectuel de menace, de dénonciation, voire de peur, que les Américains appellent « cancel culture ». Elle ferait des ravages dans les universités les plus prestigieuses, dans les médias, dans le monde de la culture en général et même dans la vie des entreprises. Cette lettre, publiée en français dans Le Monde début juillet, a été traduite en 6 langues et à la grande surprise de ses auteurs, elle a provoqué partout une avalanche de réactions et de débats, comme si le phénomène n'était pas purement américain ou comme s'il avait tendance à s'exporter depuis quelque temps. Mais c'est quoi au juste la cancel culture? Ce phénomène menace-t-il vraiment de faire imploser la gauche américaine, voire de participer à la réélection de Donald Trump? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec l'un des initiateurs de cette lettre, Thomas Chatterton Williams, qui vit en France et qui est notre invité aujourd'hui. Thomas Chatterton Williams, bonjour.
Bonjour Marc, merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être là. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour le New York Times Magazine, vous êtes éditorialiste à Harper's, vous avez écrit un livre qui a été publié en français chez Grasset qui s'appelle Une soudaine liberté et vous publierez bientôt aux États-Unis Self-Portrait in Black and White. Et vous êtes l'auteur de la première version de la lettre du Harper's. D'abord, c'est quoi la cancel culture? Comment est-ce qu'on peut définir la cancel culture pour un public français?
Sure, cancel culture is a concept that.
La cancel culture, la culture de la suppression, c'est quelque chose qui signifie des choses différentes pour différentes personnes. Nous n'avons pas utilisé ce terme de cancel culture dans notre lettre parce que ça a été coopté ou saisi par la droite et par Donald Trump, cette notion de cancel culture. Mais ça désigne quelque chose de vraiment réel.
And that is a kind of desire to
c'est un désir
harness public outrage through
de maîtriser la colère des gens par les médias sociaux.
If somebody is transgressing a norm that
si quelqu'un transgresse une norme changeante, une nouvelle norme par exemple.
And this person has made an example.
Et cette personne est exemplifiée, utilisée comme un exemple.
Alors je vais citer des extraits de la lettre, ce sera aussi simple. Dans la lettre, après avoir rappelé que la nécessité de se battre contre les forces illibérales qui gagnent du terrain partout dans le monde, vous écrivez que cette lutte a renforcé aussi tout un ensemble de postures morales et d'engagements politiques qui risquent d'affaiblir les règles du débat public. La censure que l'on s'attendait plutôt à voir surgir du côté de la droite radicale se répand largement aussi dans notre culture. Intolérance à l'égard des opinions divergentes, goût pour l'humiliation publique et l'ostracisme, tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante. On renvoie des rédacteurs en chef pour avoir publié des articles controversés, on retire des livres sous le prétexte d'un manque d'authenticité, on empêche des journalistes d'écrire sur certains sujets, on enquête sur des professeurs à cause des œuvres littéraires qu'ils citent en classe, un chercheur est renvoyé pour avoir fait circuler un article scientifique dûment examiné par ses pairs, etc. La conséquence de tout cela, c'est qu'il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles, écrivez-vous. Nous en faisons déjà les frais, à en juger par l'aversion au risque qui se développe parmi les écrivains, les artistes et les journalistes, inhibés par la peur de perdre leur gagne-pain s'ils s'écartent du consensus ou ne font pas preuve du zèle attendu pour se conformer. Alors la lettre est signée, je vais donner quelques-unes des signatures, Anne Applebaum, Margaret Atwood, la romancière auteur de la connue ici surtout pour La Servante écarlate, Martin Amis, le romancier anglais qui vit à New York, John Banville, Noam Chomsky, je l'ai dit tout à l'heure, Kamel Daoud, qui est le seul non-américain, Jeffrey Eugenides, Grail Marcus, George Packer, J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter, Salman Rushdie, Gloria Steinem, Michael Walzer, Sean Willens, Farid Zekaria, etc. Est-ce que vous avez eu du mal à réunir toutes ces signatures?
That was actually not the most difficult thing between the
non, ça peut être la chose la plus difficile. Nous étions cinq qui nous sommes réunis pour organiser cette lettre. George Packer, Robert Worth, David Greenberg et Mark Hiller. Nous cinq, nous connaissions beaucoup de gens et nous savions comment connecter, nous connecter avec des gens qu'on ne connaissait pas. Le véritable problème, c'était d'établir un document que 150 personnes avec des opinions politiques très différentes pourraient signer. Parce que on avait un spectre très très vaste. On avait Fukuyama à la droite, on avait Noam Chomsky à la gauche, et puis d'autres gens qui étaient carrément à gauche aussi. Donc c'était un peu, c'était ça le problème.
Mais tous étaient irrités, enfin plus qu'irrités par l'atmosphère actuelle.
Well, yeah, the letter provoked an outrage that had a lot less to do with.
La lettre a provoqué une colère qui avait moins à voir avec ce qui était écrit dans cette lettre, les valeurs et les principes que nous soutenions, que ce qui était perçu comme un message caché qui aurait été, comment dirais-je, indiqué par le nom des signataires de ce document.
Vous vous attendiez au succès, enfin, c'est pas au succès, mais au retentissement de ce document international en plus.
We did not. I mean, we were hoping that we could have something that would be talked about for 24 to.
Pensait qu'on aurait quelque chose dont on parlerait pendant 24-48 heures dans les médias et avoir un petit peu de dynamique sur les réseaux sociaux.
It's been talked about since July.
On en parle depuis juillet. Et j'ai des interviews, des gens qui m'ont interviewé du Chili, en Allemagne, en Espagne. C'est vraiment quelque chose de totalement différent.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle la cancel culture a tendance à se répandre partout ou quoi?
I think it is. I think there's a few things going on at once.
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se passent. On ne peut pas avoir de réaction telle que celle-ci si on parle de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et je pense que la cancel culture, la culture de la suppression, est liée à la nouvelle façon que nous avons de vivre la technologie, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très américain, mais qui est utilisé localement dans des contextes culturels très différents. Et ce phénomène américain est exporté dans d'autres pays et dans d'autres cultures également.
Alors, je vais donner quelques exemples de cancel culture tels qu'ils ont été rapportés depuis le début de l'été. La culture de la suppression, c'est comme ça qu'on peut le traduire, hein, tels qu'ils ont été rapportés notamment par le journaliste Yasha Munk dans un article du début de l'été publié dans The Atlantic. Il cite l'exemple de, par exemple, Emmanuel Cafferty, un homme de 40 ans employé de la San Diego Gas Electric Company, qui, de retour chez lui dans son véhicule professionnel, avait laissé pendre sa main par la vitre parce qu'il faisait chaud. Il a été repéré à un feu rouge par un automobiliste qui l'a pris en photo. Deux heures plus tard, son responsable l'a appelé pour lui annoncer que quelqu'un l'avait vu faire un geste de ralliement aux white suprémacistes. Et il a été licencié simplement parce qu'il avait fait aucun geste. Il avait simplement, Thomas Chatron Williams, il avait juste passé sa main par la fenêtre en fait. Il y a aussi David Shore, vous citez cet exemple-là, qui est, vous pouvez le raconter peut-être, Thomas, l'histoire de David Shore.
So David Shore's case was one of the.
Le cas de David Shore. C'est un des exemples, si vous voulez, qui nous ont menés à organiser cette lettre de protestation. C'est un jeune analyste des données pour Civis Analytics. Et il a partagé une recherche sur Twitter sans ajouter aucun commentaire de sa part. Et cette recherche montrait que ces manifestations violentes étaient apportées au crédit plus des républicains que des démocrates. Ça veut dire que ça soutenait plus le camp républicain que le camp démocrate en période électorale.
And the research that he shared was actually, this shouldn't matter, but it does in this American context. The research he shared was.
En fait, la recherche qu'il avait partagée par Twitter avait été menée par un chercheur noir de l'université de Princeton.
But none of that mattered. Mais what mattered was that he was interpreted.
Peu importe, ça a été interprété par certains comme torpillant la narration ou le récit de Black Lives Matter, comme si cette recherche n'avait aucun intérêt.
Et donc, qu'est-ce qui est arrivé?
Il a été renvoyé du groupe auquel il appartenait, de CBS, et puis il a été renvoyé de son emploi.
Alors, il y a plein d'autres exemples. La cancel culture se concentre essentiellement sur les problèmes de race et de genre. Et donc il y a plein d'autres exemples qui touchent ces deux domaines. Il y a l'exemple fameux de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, qui après avoir tweeté un tweet ironique rappelant que ce sont essentiellement les femmes et même exclusivement les femmes qui ont des cycles menstruels, s'est vu confronté à une fronde sur Internet, et pas seulement sur Internet, puisque les employés de Hachette aux États-Unis sont allés jusqu'à faire grève en refusant de travailler sur ses livres. Les fan clubs de Harry Potter l'ont mis à l'index. Ils refusent de mentionner son nom sur les sites consacrés à Harry Potter. Et on a posté même sur les réseaux sociaux des images d'autodafés de ses livres. On a l'exemple de Sue Schaffer qui, en 2018, s'est rendu dans une fête de Halloween avec un blackface et un tag qui, en fait, elle se moque d'une présentatrice télé qui avait elle-même défendu le blackface. Ça a été très mal interprété à l'époque. Elle est rentrée chez elle en un peu en larmes après s'être disputée avec des gens à cette fête. Et deux ans plus tard, le Washington Post a publié un énorme papier sur elle, alors qu'elle est absolument personne, qui avait aucun enjeu, et rappelant cette histoire qui était un pur incident qui s'est produit deux ans plus tôt. Et elle a été virée de son emploi. Et puis on a aussi plein d'exemples de délation. L'ancienne star de Disney Channel, Skye Jackson, qui a appelé les enfants, ses followers sur les réseaux sociaux, à dénoncer leurs camarades de classe s'ils repéraient un raciste ou s'ils repéraient quelqu'un qui était un raciste. Il y a eu évidemment un flot de dénonciations plus ou moins justifiées, et Jackson a rendu public ces accusations en donnant les noms, les coordonnées de certains des accusés sans nécessairement la preuve. Il s'en est pris à des adolescents, en fait. On pourrait parler... Enfin, il y a énormément d'exemples. On a l'impression et puis évidemment, il y a des exemples au New York Times qui sont très nombreux. Le New York Times, c'est un des épicentres du débat qui fait rage en ce moment dans les médias autour de la cancel culture. Thomas Chatterton.
Ce
sont des exemples extrêmement différents, avec des gens qui ont des niveaux très différents de fortune, de puissance et de célébrité. La critique commune, c'est comment est-ce que J.K. Rowling peut être supprimée, entre guillemets? Elle est pleine aux as, elle est célèbre. Mais la culture de la suppression, c'est de prendre quelqu'un et de faire l'exemple au sujet d'une norme qui est en train de changer. Ça n'a rien à voir si J.K. Rowling va perdre sa fortune, ne pourra plus travailler. Mais ce qui se passe avec des gens qui ont beaucoup moins de pouvoir et de fortune, et de comprendre ce qui se passe autour de cela. Et cette histoire de cette femme avec le Washington Post, avec le blackface, elle n'était même pas quelqu'un de connu, quelqu'un de public. Mais ça envoie un message sur ce qui peut vous arriver. Donc ça a un effet véritablement refroidissant qui s'étale sur le grand public.
On a l'impression d'une espèce de dynamique collective qui est complètement hors contrôle.
Ça ne se produit pas seulement à gauche, ça se produit à droite et à gauche. On vit un moment où les gens ne sont pas, prêts à être en désaccord les uns avec les autres, mais à faire en sorte que la personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord soit vraiment réduite à la mutité, au mutisme, ne puisse plus s'exprimer dans la sphère publique. Un des pires exemples vient du président Trump. Et sa campagne qui empêcherait un des footballeurs de jouer dans son métier, de footballeur, par exemple. On pourrait dire que Donald Trump, c'est le canceller, c'est-à-dire celui qui supprime, c'est le chef de ceux qui suppriment les gens. Il s'agit toujours de faire en sorte que quelqu'un ne puisse plus travailler. Mm-hmm.
know Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
Alors, j'ai choisi cette interprétation de Passion of Jesus, pas seulement parce que j'aime bien Johnny Cash, mais parce que il me semble qu'il y a le mouvement de la cancel culture est porté par ce qu'on appelle les woke, qui est un terme, qui est là aussi un terme intraduisible, les éveillés en quelque sorte. Et il me semble qu'il y a dans ce mouvement, dans cette dynamique, quelque chose de religieux, quelque chose de puritain.
Yeah, there is something to be said about what happens in a society.
Il faut dire quelque chose sur ce qui se passe dans la société lorsqu'il n'y a plus de canaux pour exprimer ces idées de stigmatisation, de péché originel. Il y a un débat sur John McWhorter, dont il parle très bien. Cette nouvelle religion laïque du woke, de l'éveil, remplace justement tous ces canaux, tous ces récits.
Et l'essayiste Joseph Bottrum écrit récemment, a donné une interview au Figaro récemment, dans lequel il explique que la plupart des églises protestantes qui faisaient le paysage culturel, enfin religieux américain, les presbytériens, les baptistes, les congrégationalistes, et tout ce qui était les variétés du protestantisme aux États-Unis, a connu un déclin énorme dans les dernières décennies. En 65, 50% des Américains appartenaient à l'une des 8 églises protestantes dominantes. Et aujourd'hui, dit-il, ce chiffre s'établit à 4% seulement. Il dit, cet effondrement est le changement sociologique le plus fondamental des 50 dernières années, alors que personne n'en parle. Et si une partie de ces protestants ont migré vers les églises chrétiennes évangéliques, donc plutôt à droite, dans les années 70, on a vu un nombre surprenant de conversions au catholicisme, surtout chez les intellectuels. Mais la majorité sont devenus ce qu'il appelle des post-protestants, et ces post-protestants, il y voit l'origine du woke, l'origine des woke.
Well,
est-ce que ça tient debout comme explication?
Je ne
sais pas si c'est vraiment l'origine du woke, des gens de l'éveil. Mais les gens ont besoin de tabous, ils ont besoin d'une cohésion sociale. Et ils ont besoin d'une idée d'un but dans la vie. Il y a les mèmes des victimes, des martyrs, qui traversent la culture occidentale, qui remontent à la crucifixion de Jésus. Et ces images qui sont diffusées par les réseaux sociaux de victimes comme George Floyd, qui remplace ce mème qui revient toujours dans la culture occidentale, cette image. Et c'est un canal apte à faire passer leurs sentiments religieux.
Oui, l'antiracisme, en quelque sorte, c'est substitué au christianisme, et le privilège blanc remplace le péché originel.
On peut soutenir ça très fortement. On ne peut jamais surmonter le privilège blanc. C'est comme à l'état de péché originel. On est né comme ça et on ne peut pas s'en sortir.
Au moment des manifestations de George Floyd, on voyait à la télé, on voyait les énormes manifestations et on voyait plusieurs choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on voyait pour une part les Américains des basses classes en quelque sorte, la société américaine qui protestait, unie d'une certaine manière contre la violence, Et puis, on a commencé à voir les escadrons de woke, de Black Bloc, qui sont venus, en quelque sorte, infiltrer ces manifestations et dans certains cas, en transformer la nature.
If you look at Portland, Oregon,
si vous regardez ce qui s'est passé à Portland, dans l'Oregon, à Seattle,
you have almost exclusively white
il n'y a que des foules blanches qui manifestent contre d'autres blancs. Il
n'y
a quasiment pas de noirs qui font partie de ce débat, qui crient « Black Lives Matter » et d'autres qui disent aussi « Black Lives, c'est magique ». C'est quelque chose sur la psychologie des blancs qui n'ont plus besoin de ces victimes noires. Sa propre vie, ça a pris sa propre dynamique.
Oui, c'est une problématique. Il y a beaucoup de culpabilité, j'imagine, qui est à la base de ça.
Oui,
il y a aussi un narcissisme et un renforcement de la hiérarchie traditionnelle. Là où j'ai un problème avec ça, c'est que ça maintient l'idée que les blancs sont supérieurs aux noirs. Ça donne un nouveau canal plus acceptable pour dire cela. On ne peut plus être sur la façon classique dont on disait que les noirs étaient, que les blancs étaient supérieurs aux noirs. Mais là, on le dit de la même manière. Et les blancs sont les agents actifs et les noirs sont ceux sur lesquels on agit.
Les woke essaient de se débarrasser d'une tâche originelle reçue en héritage, ce que Philippe Roth appelait the human stain, la tache humaine. Il y a vraiment cette idée de retrouver une forme de pureté à travers une lutte. Ils ont un évangile, ils ont deux évangiles principaux. Le livre Privilège blanc, publié par D'Angelo, qui est en fait conseiller en entreprise, et puis le livre Comment devenir antiraciste. Je cite les titres français de Ibrahim X. Kendi, qui sont les deux piliers du mouvement dans sa frange lutte contre le racisme. Ce qui est fascinant en particulier avec le livre de D'Angelo, c'est que son public est essentiellement blanc. Et elle passe son temps à expliquer à des gens qui payent pour ça à quel point son auditoire est raciste et à quel point c'est sans espoir, en fait. À quel point ils seront toujours racistes.
One of her key arguments is that we
un de ses arguments clés, c'est qu'on ne peut jamais régler ce problème.
Donc,
elle doit continuer à être payée 25 000 dollars de l'heure par Google, Facebook et les grandes sociétés américaines qui vont continuer à la payer pour ça. Mais ce qui est problématique dans sa vision, c'est que elle dit que les blancs sont différents des noirs par héritage, parce que les blancs exsudent le racisme par les pores de leur peau. Il y a quelque chose d'essentiel dans la race. La race n'est pas quelque chose que la société a construit et qu'il faut transcender. Non, la race vient de vos pores, c'est dans votre essence. C'est quasiment une notion hitlérienne.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Ibrahim X. Kendi, qui est l'autre pilier de...
Il
a un message un peu différent.
Il
ne dit pas que les blancs et les noirs sont essentiellement différents. Bien que lorsqu'il était un étudiant, il a écrit un papier dans un journal, une opinion en disant qu'il est possible que les noirs soient des aliens, des gens d'une autre planète, d'un autre monde.
Ah oui, quand même.
Les blancs soient d'un autre monde.
Oui.
But now he has a subtler argument,
mais il a un argument plus subtil où il dit que chaque idée, action ou politique est soit raciste, soit antiraciste. Il n'y a rien au milieu, il n'y a rien entre les deux. Et il n'est pas possible de ne pas être raciste.
Et
les gens passent par des étapes différentes au cours de la journée. Le matin, vous pouvez être antiraciste, mais le soir, vous pouvez faire une maladresse, n'est-ce pas, un écart, et vous redevenez raciste. Là où il est d'accord avec D'Angelo, c'est que ça ne peut jamais être surmonté. Donc, lui aussi, il continuera à être payé 25 000 dollars de l'heure.
Et quel est le rôle des... parce que l'argent joue quand même un grand rôle dans cette histoire. S'il s'agit on parle de deux best-sellers phénoménaux aux États-Unis avec ces deux livres. Quel est le rôle des universités dans la diffusion de ce type de message?
Oh, the role of the academy is huge. It grants legitimacy, but also
obviously. Eh bien, c'est le rôle de l'authenticité, de la légitimité. Il y a beaucoup d'argent dans les universités.
Kendi is now at home in Boston University, where he creates his anti-racism center.
A créé un centre antiracisme à Boston.
Jack Dorsey, the CEO Jack Dorsey.
Le DG de Twitter a tweeté il y a quelques semaines qu'il a donné un chèque de 10 millions de dollars à Candace pour son centre antiracisme pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Chaque grande fortune a une formation à l'antiracisme basée sur ses livres. Et il faut se poser la question, est-ce qu'un mouvement peut être aussi radical lorsqu'il est suivi par tellement de gens d'horizons tellement différents aux États-Unis, à la fois?
C'est le pays du capitalisme, c'est-à-dire que ça marche aussi parce que c'est une bonne affaire.
Oh, 100%, there's a capitalist
aspect
to this.
Il y a un aspect capitalistique, le capitaliste. Quand on regarde Adolf Reed ou Barbara Karen Field, des gens qui regardent comment fonctionne la société et qui disent s'il fallait aider la majorité des Noirs, qui sont aussi la majorité de la classe inférieure, en proportion, pas en chiffres bien sûr, eh bien il faudrait avoir le type de politique et de suggestions qui rendraient les grandes entreprises dans une situation très inconfortable. Diversifier les élites, s'assurer que 13% des milliardaires soient noirs, parce que les noirs représentent 13% de la population américaine, c'est pas une idée très réalisable.
Mais quel est l'intérêt des universités à accepter à ce point pratiquement sans résistance ce discours qui finit par nuire quand même au patrimoine universitaire, même à l'enseignement?
Universities have started for a while now. Universities look at
depuis un certain temps,
customers, first and
foremost. Les universités considèrent leurs étudiants comme des clients.
Oui.
Principalement, il y a une génération ou deux maintenant d'étudiants qui souscrivent à ce que Hyatt décrit dans leur livre comme une doctrine de sécurité, parce que ses clients demandent à être en sécurité à tout moment. Et c'est cette notion de sécurité n'est jamais mise en cause. Donc, la mission des universités de vous exposer, vous étudiants, à des doctrines inconfortables, eh bien, cela est rendu totalement impossible désormais. Les universités ont un problème. Ils doivent retenir leurs clients et ils doivent les retenir à la satisfaction des clients.
France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann. Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer, dawn of the morning.
I'm from the murder capital, where we murder for capital.
Lucifer, Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
You did it again, you a genius.
Lucifer, Lucifer, dawn of the morning.
So you niggas change your attitude before they asking what happened to you. Lord forgive him, he got them dark forces in him. But he also got a righteous cause for sending them to murder me. So I gotta murder them first, emergency. Doctors performing procedures, Jesus. I ain't trying to be facetious, but vengeance is mindset. The Lord, you said it better than all. Leave niggas on death's door, breathing off respirators for killing my best ball haters. On permanent high haters as I skate in the Maybach Benz. Flyed in some Nihilathan, bumping brown sugar by D'Angelo in Los Angeles, like an evangelist. I can introduce you to your maker, bring you closer to nature. Ashes after they cremate you, bastards. Hope you've been reading your psalms and chapters, paying your tithes, being good Catholics. I'm coming.
Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer, dawn of the morning.
I'm from the murder capital, where we murder for capital.
Lucifer, Lucifer, dawn of the morning.
Oui, pour finir sur les universités, il faut rappeler l'intérêt des universités à ne pas décevoir les étudiants. Il faut rappeler le montant des frais universitaires.
Le prix de l'inscription à la fac par an est de 75 000 dollars par an. En moyenne. Par exemple, pour aller 4 ans à l'université et avoir sa licence ou son BA, c'est le prix d'une maison. Mm-hmm. Et les parents payent ça pour que leurs enfants aient un métier.
Oui, c'est ça. Alors, je voudrais qu'on passe le dernier quart d'heure à parler de vous aussi, Thomas Chatterton-Williams, parce que vous parlez pas de n'importe où. Vous avez une histoire que vous racontez dans ce livre, Une soudaine liberté, qui est paru chez Grasset il y a 2 ans. Vous êtes métisse. Et vous dites, dans les premières pages du livre, vous dites: bien que ma mère soit blanche, nous étions une famille noire et non métisse. Mes deux parents insistaient sur cette distinction. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vos parents?
Souvent, je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à étudier et à vivre en France,
c'est que
le racisme est construit de façon différente dans différentes sociétés.
Pas simplement
le racisme, mais l'idée même de race.
L'idée même de la race, oui.
En Amérique, l'idée de la race provient de l'esclavage dans les limites de la société.
And there was the notion,
et la notion
going back
de...
to right after the country was founded and
après la création du pays, c'était que une seule goutte de sang noir faisait de vous un noir.
Because they cannot be white, because whiteness means
parce que blanc signifie libre. Ça veut dire que vous n'êtes pas réduit en esclavage. Et ça a à voir avec la façon dont la propriété privée était passée d'un propriétaire à un autre, par exemple. Mais c'est devenu, au sein de la culture noire, qui était très inclusif. On a tourné le négatif en positif au sein de la communauté noire. Les gens peuvent avoir l'air de n'importe quoi. Mais lorsque vous avez des ancêtres noirs, donc vous faites partie de la famille noire. Donc la façon dont moi j'ai grandi en Amérique, dans les années 1990, il fallait choisir sa race. Et ce n'est pas avant l'an 2000 que vous pouviez choisir plus d'une race et de vous affirmer métisse.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une place particulière des métisses aujourd'hui dans la société américaine? Le plus fameux, évidemment, c'est Obama. Ces métisses sont pour ceux que je connais, en tout cas, des enfants de la lutte des droits civiques. C'est-à-dire que la mère d'Obama était une militante des droits civiques. La romancière Danzy Senna, ses parents, qui est métisse également, ses parents étaient des militants des droits civiques. Votre mère, donc, était protestante, fille d'un pasteur évangélique, et votre père noir, né en 37 dans le sud, dont le grand-père était esclave en Louisiane. Vos parents se sont rencontrés à San Diego à la fin des années 60 et en militant contre la pauvreté. Et je me demande s'il n'y a pas un regard métis particulier qui autorise, aux États-Unis en particulier, qui autorise une certaine complexité, la prise en compte d'une complexité qu'on n'a pas forcément ailleurs.
Well, I do think there is a kind of, perhaps I'll call it a gift of vision or something that you can get.
Peut-être que j'appellerais ça un don d'une vision qu'on peut avoir ou obtenir dans certaines circonstances.
I think a lot about something that Ta-Nehisi Coates wrote.
Quelque chose que Ta-Nehisi Coates a écrit.
He said most black people.
Il a écrit la plupart des Noirs en Amérique
were not loved by a white person, didn't
n'ont pas été
know a white person
aimés par des blancs, ne connaissaient pas des blancs de façon intime.
Et
de même, la plupart des blancs ne connaissaient pas de noirs. Nous avions des vies très différenciées, très ségrégées.
I grew up in
le métissage.
A where
moi, je suis né dans une maison où j'ai été aimé par une mère blanche et par un père noir. Donc c'était difficile de faire des projections sur ce que les autres blancs, à quoi ils ressemblaient ou comment ils sentaient les choses.
Et
ça peut vous donner une compréhension que les gens ne sont pas simplement des avatars de groupes ou de catégories de couleurs.
Mais est-ce que historiquement, les métis qu'Obama d'une certaine façon symbolise, est-ce que vous n'êtes pas finalement les premières générations d'un métissage assumé comme tel? Parce que il y a toujours eu des métis, la culture américaine est essentiellement métisse, mais ça n'a jamais été, quand on lit par exemple Faulkner, quand on lit Lumière d'août, on se rend compte que le métissage n'est jamais assumé comme tel. Et c'est depuis les droits civiques que pour la première fois, quelque chose transcende la simple appartenance communautaire et quelque chose de finalement très américain qui se découvre dans ces nouvelles générations.
Il est difficile de le dire. Moi, j'ai 39 ans. J'ai grandi d'une manière où je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui se définissait comme biracial jusqu'à ce que j'arrive à l'université. C'est la première fois à l'université que j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Nous avons une compréhension beaucoup plus élaborée aujourd'hui qu'on ne l'avait dans mon enfance. On a toujours eu cette idée, Faulkner, littérature, des mulâtres, celui qui était coincé entre deux. Mais c'était toujours quelqu'un qui était en dehors de la blanchité.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, maintenant qu'il y a une compréhension que des gens ont des identités multiples, mais on est encore censé s'identifier avec la partie la plus minoritaire ou la plus réprimée de votre héritage.
Je me demande si, d'une certaine façon, la culture woke et toute cette histoire de culture de la suppression n'est pas en partie une sorte de réaction de panique face à ce métissage qui est neuf, exactement comme le vote pour Trump est une réaction de panique face à l'élection d'Obama, par exemple. Et si dans les deux camps, en fin de compte, il n'y a pas un vrai trouble à cette culture métisse qui surgit soudainement.
La
population mélangée est celle qui grandit le plus rapidement, qui croît le plus rapidement aux États-Unis. Il est clair que démographiquement, l'Amérique ne sera plus un pays majoritairement blanc d'ici 2050, mais très certainement avant la fin de ce siècle. Et il y a une angoisse très certaine dans des parties de l'Amérique blanche sur ce que cela signifie. Obama a représenté quelque chose qui était enlevé de l'imagination de l'Amérique blanche. Vous avez parfaitement raison, c'est un retour de manivelle.
Mais est-ce que le mouvement woke n'est pas aussi un retour de manivelle dans le camp de la gauche? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un désir de revenir à quelque chose de beaucoup plus tranché?
Il y a un aspect de la wokitude, de l'éveil.
Les extrêmes se touchent. Super hardcore woke progressives and
il y a des progressistes extrêmement woke et les racistes peuvent tomber d'accord sur le fait que le racisme, c'est la chose la plus importante et qu'on ne peut pas surmonter le racisme, on ne peut pas le transcender. Et il y a un certain éveil concernant la perte de cette séparation très nette entre les camps.
Parce qu'on le voit, par exemple, dans certaines mesures, dans certaines revendications, dans certaines facs, où je crois que c'est à New York University, où des groupes noirs ont demandé de la ségrégation, que les blancs et noirs soient séparés.
Absolutely. I mean, you're getting some. So my father grew up under real segregation.
Mon père a grandi dans un monde ségrégué.
83 ans. He's from another time.
Il est d'une autre époque. Et la jeune génération, elle a oublié ce que signifiait la ségrégation. Et ils ont un fantasme en croyant que c'est un type de progrès, la ségrégation. Mais il y a ces arguments de ségrégation racistes qui viennent de la gauche. Il y a un sentiment qu'en musique classique, par exemple, les auditions étaient racistes parce qu'il y avait un parti pris implicite. Lorsqu'on voyait un noir ou un eurasien ou un asiatique qui passait une audition de musique classique, ils n'auraient pas le boulot.
Donc
pour
réparer cela, on jouait à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas qui jouait, on entendait seulement le musicien. Maintenant, il y a un autre argument de la gauche, maintenant, en disant, ah ben non, ça écarte trop de gens des minorités, trop de noirs. Il faut un racisme positif, désormais, qui réintroduit cette chose-là. Il faut arrêter avec les auditions à l'aveugle. Il faut que les gens voient que vous êtes noir et que ça puisse réintroduire un équilibre.
C'est une régression.
C'est une régression par rapport à Martin Luther King et ce pourquoi il luttait.
Il y a toute la lutte pour les droits civiques.
Yeah, absolutely. It's taking race into account and saying it's the most important thing as opposed to judging a person based on their ability.
Ça fait revenir la notion de race en disant que c'est la race la chose la plus importante qui soit et non pas la valeur de l'individu en tant que tel.
Est-ce que vous êtes optimiste sur les élections?
I am deeply concerned about
je suis très inquiet sur la situation de la démocratie américaine et la mort de Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême et la course en avant pour nommer un successeur à cette juge et le président Trump qui dit il y aura une continuation du pouvoir. C'est une époque extrêmement sombre. Et je ne pense pas, parce que ces temps sont très sombres avec une présidence d'extrême droite, qu'il faut rester silencieux sur des problèmes très graves qui se produisent à gauche.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui me semble que vous défendez, en particulier aux États-Unis, c'est finalement l'héritage de la lutte pour les droits civiques, c'est-à-dire la mixité dont vous êtes le produit finalement.
Absolutely. I think you have to fight a liberalism wherever it comes from.
Il faut lutter contre l'illibéralisme qu'il vienne de la droite ou de la gauche.
I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Perret Legras et à la technique Élise Leu. Et dans un instant, une histoire particulière.